Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le premier tour des élections législatives marqué par une abstention record, l'alliance présidentielle Ensemble devance d'une courte tête la coalition de gauche NUP. Sur les enseignements de ce scrutin, nous écouterons Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Les magistrats ne décolèrent pas en Tunisie, ils reconduisent leur mouvement de grève d'une semaine, entamé lundi dernier après le limogeage de 57 d'entre eux. Nous y reviendrons avec Halima Jouini, membre de la direction de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Beaucoup d'émotion et de tristesse en Algérie après la mort du footballeur international Bilal Benhamouda. Il était âgé de 24 ans. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 face à face Maroc-Libéria ce soir à 21h. Un taux d'abstention record lors du premier tour des élections législatives hier en France. 52,49% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. La majorité présidentielle a remporté 25,75% des suffrages exprimés contre 25,66% des voix pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Le Rassemblement national obtient 18,68% des suffrages, 13,62% pour les Républicains, l'UDI et les divers droites, 4,24% pour Reconquête, qui n'a aucun élu, et 3,14% pour les candidats divers gauche. 5 députés ont été élus dès le premier tour, 4 de la NUP et 1 de la majorité présidentielle. Les candidats qualifiés pour le second tour ont une semaine pour mobiliser les abstentionnistes. Le second tour qui aura lieu dimanche prochain. Regard sur les enseignements de ce premier tour avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne.
Il y a 4 enseignements principaux. Le premier enseignement, bien évidemment, c'est le niveau d'abstention qui est historique puisqu'il est au-dessus de celui qu'il avait été déjà en 2007 qui était extrêmement important. Donc ça, c'est un premier élément qui confirme in fine le refus de la participation élection après élection et qui pose avec acuité la question de la représentativité d'une assemblée qui doit être représentative comme l'Assemblée nationale. Deuxième élément, c'est que sortent en tête deux grandes coalitions, la coalition présidentielle et la coalition mélenchoniste NUPS, qui font quasiment jeu égal et avec néanmoins, malgré tout, une réussite partielle de la coalition de gauche qui place plus de 350 candidats en position de se maintenir au second tour de cette élection et qui contraint le président de la République à un entre-deux-tours extrêmement difficile et qui hypothèque vraisemblablement, même si il reste encore un certain nombre d'aléas, mais hypothèque vraisemblablement la possibilité pour le président de la République de disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale dans une semaine. Troisième élément qu'il faut aussi prendre en compte, c'est le résultat du Rassemblement national. C'est un résultat qui, comparativement à 2017, est un bon résultat pour le Rassemblement national qui gagne près de 5 ou 6 points, qui place plus de 220 candidats en position de se maintenir au second tour et avec la possibilité de disposer d'un groupe parlementaire, ce qui n'était pas arrivé depuis 1986 et encore en 1986 avec un scrutin proportionnel. Donc on voit que là, la stratégie de Marine Le Pen a plutôt au moins payé sur le plan de ses élections législatives, surtout qu'elle parvient à marginaliser son concurrent direct, Éric Zemmour, puisque Reconquête n'aura aucun candidat au second tour et qu'Éric Zemmour est lui-même éliminé dans sa propre circonscription où il postulait au poste de député. Quatrième élément, une résilience relative des Républicains. On mesurera cela vraisemblablement plutôt lors du second tour, mais des Républicains qui, malgré tout, sont parvenus à limiter la casse, même si un certain nombre de grandes figures des Républicains sont tombées. Je pense à Julien Aubert, je pense à Guillaume Larrivé, éventuellement, ou à Sébastien Huyghe dans le Nord. Donc, les Républicains pourraient finalement ressortir au soir du second tour avec un groupe parlementaire moins entamé qu'on pouvait l'imaginer, et au regard de la situation générale du contexte électoral, disposer d'un groupe parlementaire qui serait dans l'hypothèse de l'absence d'une majorité absolue, un groupe charnière lors de la prochaine législature.
Vous dites les Républicains qui pourraient jouer un rôle très important en cas de majorité relative pour la majorité présidentielle.
Clairement, c'est-à-dire que dans l'hypothèse de l'absence même d'une majorité relative à l'intérieur de la coalition, là, on voit bien que le renfort potentiel d'un groupe parlementaire républicain pourrait s'avérer déterminant pour le président de la République et son Premier ministre pour faire passer un certain nombre de textes qu'il considère comme des textes essentiels dans le quinquennat qui commence.
Il a souvent été dit que la France n'était pas à gauche. Les résultats de ces législatives nous enseignent-ils le contraire ?
Il y a une droitisation, qu'on le veuille ou non, malgré tout, de l'opinion publique sur un certain nombre de sujets, qu'il s'agisse de la question de l'autorité ou même de l'identité. Les résultats du Rassemblement national dans cette élection législative le démontrent. Les résultats quand même de la majorité présidentielle le démontrent aussi. On voit bien que cette majorité présidentielle qui s'est construite en 2017 plutôt au centre-gauche s'est quand même droitisée en cours de quinquennat. Il y a une partie de l'électorat de droite qui aujourd'hui vote pour les candidats du macronisme, et il reste malgré tout un continent républicain qui demeure enraciné dans les territoires. La vérité, la grande réussite peut-être de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir suscité quand même un effet d'optique qui limite certes la casse sur le plan électoral, où on voit bien qu'il a réussi à faire élire dès le premier tour un certain nombre de députés, où il va récemment réussir à envoyer près de 200 députés à l'Assemblée nationale. Mais la réalité quand même de ce pays sur le plan politique, elle s'exprime très bien dans cette élection législative, bien plus que dans cette élection présidentielle. Elle montre deux choses: la croissance de l'abstentionnisme et également la fragmentation du champ politique, avec finalement des blocs qui sont absolument inconciliables. D'un côté, un bloc centriste, de centre-droit avec Emmanuel Macron, un bloc de droite nationale avec Marine Le Pen, et un bloc qui est un bloc de gauche, et d'autres mouvements politiques qui aujourd'hui sont un peu satellisés. Mais la vérité aujourd'hui politique, j'allais dire, de la France, au lendemain de ce premier tour de l'élection législative, c'est un paysage profondément balkanisé.
Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Beaucoup d'émotions et de tristesse en Algérie après la mort du footballeur international Bilal Benhamouda. Le milieu de terrain de l'USM Alger est décédé dans un accident de la route survenu jeudi soir dernier. Il était âgé de 24 ans. À l'annonce de sa disparition, la Fédération algérienne de football a annulé un tournoi des quatre nations auquel participait Bilal Benhamouda avec les Fennec, qui étaient organisés en Algérie à 6 mois du championnat d'Afrique des nations. La grève des magistrats tunisiens entamée lundi dernier dans tous les tribunaux du pays est reconduite pour une deuxième semaine. La coordination des structures judiciaires dénonce notamment la révocation de 57 juges par le président Kais Saied. Il les accuse de corruption. Le mouvement se traduit par la suspension de l'ensemble des séances et des services au sein des tribunaux, à l'exception de l'obtention des autorisations d'inhumation et de certaines affaires de terrorisme. Sur la situation en Tunisie, sur son évolution depuis le 25 juillet dernier, entretien avec Halima Jouini, membre de la direction de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Elle soutient cette grève des magistrats.
Le Parlement d'avant le 25, la situation était tellement enviminée, il n'y avait pas d'issue. En plus, amplifiée par la crise sanitaire, les Tunisiens et les Tunisiennes étaient comme dans le chaos total, le nombre de morts augmentait, les gens voyaient que les parlementaires, avec cette violence au sein même du Parlement, était insupportable. Beaucoup de femmes, de toutes tendances confondues, subissaient aussi des violences verbales et des fois physiques et tout. Et donc, on a réagi, on voulait plus voir ces scènes de violence comme ça exposées à tout le peuple tunisien. Et c'était la crise, la grande crise. Plus qu'un an, on n'arrivait pas à avoir un gouvernement à cause des divergences politiques au sein même du Parlement. Des violences, des scènes de violence incroyables. C'était tous ces facteurs-là. Et la crise sanitaire avec l'absence de vaccins et le nombre de morts qui augmentait, ça dépassait les 25 000 défunts. Et donc, voilà, c'était la veille du 25 juillet. Donc, les mesures arrêtées à ce moment-là, ces scènes de violence, tout le monde était un peu réjoui. Pour mettre fin à cette violence, le Parlement n'était qu'une scène de violence continue. Voilà.
Justement, vous rappelez le contexte dans lequel ces mesures d'exception ont été prises par le président de la République. Et cela a représenté, vous le dites au début, un espoir pour vous et notamment pour l'Association tunisienne des femmes démocrates.
En tant qu'association, on a beaucoup discuté. Il y avait des divergences, des lectures différentes, mais quand même, on a dit... On pousse pour que ces mesures soient une occasion pour bâtir quelque chose, justement, de participatif et de trouver quand même une issue à cette crise politique qui n'en finit pas. Et donc, on voulait que ça soit limité dans le temps, qu'il y ait une feuille de route claire, que toutes les forces de la société civile et les forces démocratiques et tout participent. Il y avait quand même beaucoup d'idées et les gens, quand même, plusieurs associations, toutes les composantes de la société civile, y compris le syndicat l'UGTT, notre association, la Ligue des droits de l'homme. Donc au début, reçu par le président de la République le 26 juillet, on a exprimé cette attente-là. Malheureusement, avec l'évolution des choses, on ne voyait pas venir cet agenda limité dans le temps avec des mesures claires et une volonté de faire participer tout le monde, y compris la société civile qui était comme un garde-fou.
Justement, donc, plus de 10 mois après la mise en place de ces mesures d'exception, comment évaluez-vous la situation ?
La situation, justement, ne s'est pas améliorée. Au contraire, de plus en plus, on voyait quand même que le président de la République allait vers l'avant tout seul, avec des décrets-lois pratiquement successifs et qui renforçaient son monopole de toutes les sphères de pouvoir, à savoir le pouvoir exécutif. Il présidait même des réunions de gouvernement. C'était sous sa tutelle, même s'il y avait une chef de gouvernement, mais elle n'avait aucun rôle pratiquement. C'est lui qui décidait de tout. Mais en même temps, soi-disant, il allait combattre la corruption. Il commençait à destituer les gouverneurs et à attaquer le conseil de la magistrature, parce que ce conseil était acquis au parti NADA. Il a même nommé un autre conseil. Et même ce conseil, il n'a pas de rôle à jouer. La preuve, il a fini par lui-même destituer 57 magistrats. Je crois que c'est une grande faute. Et surtout, sans leur donner le droit à un recours quelconque. Et ça, c'est une honte. C'est une grande atteinte aussi bien à l'indépendance de la magistrature, mais aussi c'est une atteinte aux droits de tout citoyen, à un jugement équitable, justement, le droit de se défendre. Et ce qui est quand même un peu, en tant que féministe, là on l'a dénoncé parce qu'il y a eu quand même une campagne de lynchage contre 3 femmes magistrates accusé d'adultère. D'ailleurs, entre guillemets, je mets adultère et je ne sais pas si ce crime-là pourrait porter atteinte à l'ensemble, comme une corruption ou bien comme les autres accusations contre leurs collègues hommes. Ces femmes-là, c'est pour des causes soi-disant morales. Et c'était une grande humiliation, on l'a vécu comme une grande humiliation à toutes les femmes tunisiennes.
Concernant la grève des magistrats, c'est un mouvement que vous soutenez au sein de l'Association tunisienne des femmes démocrates ?
On le soutient, oui. On est pour l'indépendance de la magistrature. On ne peut pas bâtir justement une vraie démocratie sans l'indépendance. On peut justement lutter contre la corruption, mais pas avec des méthodes hors la loi. Ça porte atteinte à tous les béabas des droits humains.
À l'image, Winnie, membre de la direction de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Des inondations en Turquie, 4 personnes sont décédées, une est portée disparue. C'est arrivé dans le centre du pays, en particulier dans la capitale Ankara. Ce cri d'alarme de Médecins sans frontières, l'ONG fait état de 14 196 personnes migrantes migrantes refoulées d'Algérie et abandonnées en plein désert à la frontière algéro-nigérienne entre janvier et mai dernier. MSF déplore des maltraitances. Sonia Mounir, référente santé mentale en Afrique de l'Ouest et centrale au sein de Médecins sans frontières.
Les conditions étaient déplorables, honnêtement, dans le sens que ces gens sont souvent embarqués de l'Algérie vers les frontières nigériennes dans des camions à ciel ouvert. Un nombre assez élevé, on peut trouver des convois avec 200, 300 dans le même camion, sous le soleil, chaleur, qui n'ont pas accès à l'eau potable ou un accès très réduit à l'eau potable, avec un manque de la nourriture, avec aussi pas mal de violences, surtout des violences physiques que nous avons constatées lors des consultations quand les migrants, quand ils arrivent aux structures sanitaires que nous appuyons, avec pas mal de blessures, certains avec quelques fractures, des problèmes cutanés, des déshydratations, dû au manque d'accès à l'eau, du manque de la nourriture, donc des gens qui sont assez affamés, avec aussi de la maltraitance psychologique, de la violence psychologique, tout ce qui est insultes, injures, des menaces. On reçoit des personnes avec des cas de violence sexuelle.
Et ces violences physiques et psychologiques que vous mentionnez, où se déroulent-elles ?
Soit dans les endroits où ils ont été emprisonnés, on va dire, où ils ont été captivés, arrêtés avant la déportation, mais aussi sur le trajet qu'ils sont en train d'effectuer du point où ils étaient arrêtés jusqu'à les frontières. Donc c'est souvent affecté par la police, la gendarmerie, les gardiens, on va dire en général, algériens et aussi libyens, pour les autres migrants qui entrent de la côté de la Libye, qui ont été refoulés de la côté de la Libye vers la Niger aussi.
Et vous mettez l'accent notamment sur les violences psychologiques, sur l'impact sur la santé mentale.
Vous savez, on dit toujours que les violences physiques, ça prend du temps et ça guérit, mais la violence psychologique, ça prend plus de temps, ça prend plus d'ampleur et ça peut rester pour une très longue période de vie et même toute la vie sans se guérir.
Sonia Mounir, référente santé mentale en Afrique de l'Ouest et centrale au sein de Médecins sans frontières. Nouveau signe de la crise dans le secteur hospitalier en France, la grève des urgences adultes du CHU de Toulouse. Seules les urgences vitales sont assurées dès ce soir. Cet hôpital accueille plus de 50% de l'activité des urgences de Toulouse Métropole. Il va faire chaud cette semaine en France. Météo France annonce entre 35 et 38 degrés. Une vague de chaleur précoce qui devrait durer jusqu'au week-end prochain. Cette